Et le journal vous est présenté ce soir par Fiona Mogadam. Bonsoir Fiona.
Bonsoir Hervé, bonsoir à tous. Le sort des enfants de djihadistes retenus en Syrie une nouvelle fois en question. Le défenseur des droits appelle le gouvernement à faire cesser les traitements inhumains. Dans le même temps, des enfants de djihadistes turcs ont été renvoyés d'Irak vers la Turquie. Précision à suivre dans ce journal. Le Premier ministre Édouard Philippe prononcera un discours de politique générale le 12 juin prochain. Un acte fort et surprenant, nous dira Stéphane Robert dans quelques minutes. L'ancien ministre britannique Boris Johnson, convoqué par la justice, il est accusé d'avoir menti lors de la campagne sur le référendum sur le Brexit. Elle était convoquée par la DGSI. Aujourd'hui, la journaliste du Monde, Ariane Chemin, a été entendue pour ses révélations dans l'affaire Benalla. Que vont devenir les enfants de djihadistes français retenus dans des camps en Syrie? Le défenseur des droits appelle aujourd'hui la France à faire cesser les traitements inhumains contre ces enfants. Dans le même temps, la Commission nationale consultative des droits de l'homme a écrit au gouvernement, lui demandant de rapatrier sans condition tous ces mineurs. Bonsoir Léa Gage. Ce qui pose notamment problème pour le défenseur des droits et de la commission et la commission des droits de l'homme, ce sont les conditions de vie dans ces camps.
Oui, on y manque de tout. Eau, nourriture, éducation, soins. Les épidémies de choléra, de tuberculose et de dysenterie se propagent. Des mois que les ONG alertent sur ces conditions, en particulier dans les camps d'Alol, au nord-est de la Syrie. Dans ce camp, 70 000 personnes sont retenues, essentiellement des mères avec leurs enfants, et le taux de mortalité y est important. De quoi inquiéter les familles. Des grands-parents ont d'ailleurs saisi la Commission européenne des droits de l'homme pour demander la condamnation de la France. Ils essaient en vain d'obtenir le rapatriement de leurs petits-enfants retenus avec leur mère dans ce camp depuis des mois. Mais pour l'instant, les rapatriements sont acceptés au compte-gouttes, au cas par cas par le gouvernement français, et ce, malgré la demande de la commissaire aux droits de l'homme du Conseil de l'Europe. 6 enfants, 5 orphelins et une fillette de 3 ans sont donc revenus de Syrie en mars, mais pas de rapatriement collectif. En France, c'est toute la classe politique qui se divise sur cette question.
Et en Irak, cette fois, le Conseil suprême de la magistrature a annoncé aujourd'hui le renvoi en Turquie de près de 200 enfants turcs de membres du groupe État islamique qui sont détenus dans le pays. Plusieurs centaines d'autres mineurs de nationalité turque se trouvent dans le même cas. Et la Turquie ambitionne de tous les rapatrier à Nandlouer.
La plupart de ces 188 enfants reconnus comme turcs étaient détenus avec leur mère, arrêtés et condamnés en Irak pour appartenance à Daesh. Des responsables irakiens et turcs ont coordonné l'opération de rapatriement, suivie par des représentants du Fonds des Nations Unies pour l'Enfance, l'UNICEF. Le souhait de la Turquie était de les ramener au pays avant les fêtes de fin du Ramadan qui commencent le 4 juin. C'est ce qu'a expliqué l'ambassadeur de Turquie à Bagdad, Fatih Yıldız. Ce genre d'opération pourrait se répéter dans les semaines et les mois à venir. Les autorités d'Ankara estiment en effet qu'au moins 500 enfants turcs sont emprisonnés en Irak. Certains nés sur place, d'autres emmenés par leurs parents lorsque ces derniers ont rejoint les rangs du groupe État islamique entre 2014 et 2017 pour la plupart. Le sort de ces mineurs fait l'objet d'une étroite collaboration depuis plusieurs mois entre les autorités turques et les ministères irakiens de la justice, de l'intérieur et des affaires étrangères. L'objectif officiel est de les ramener tous en Turquie pour les remettre à des membres de leur famille. La situation de leur mère est en revanche plus compliquée. Beaucoup ont été condamnés par la justice irakienne à une peine de prison à vie, voire à la peine de mort. Selon l'ambassadeur turc à Bagdad, Ankara cherche un moyen de les faire venir en Turquie, elle aussi, pour purger leur peine, même si leur condamnation pour terrorisme les exclurait a priori des accords d'extradition.
Et l'Irak, où 2 Français ont été condamnés à mort pour appartenance au groupe État islamique. Au total, ce sont 8 Français qui ont été condamnés à la même peine. Ils ont bénéficié de procès équitables, a déclaré le ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, cet après-midi. Un discours de politique générale du Premier ministre Édouard Philippe, suivi d'un vote de confiance à l'Assemblée nationale le 12 juin prochain. Le gouvernement prend acte des résultats des élections européennes qui ont placé La République en marche en 2e position derrière le Rassemblement national. Bonsoir Stéphane Robert.
Bonsoir.
Le gouvernement entend là donner une nouvelle impulsion à sa politique, mais ce discours avec un vote de confiance, c'est un acte fort et un peu surprenant.
Oui, un peu surprenant parce qu'un discours de politique générale suivi d'un vote de confiance France à l'Assemblée intervient habituellement après un remaniement, suite par exemple à une défaite électorale. Il s'agit alors pour le pouvoir exécutif de montrer qu'il prend acte de la sanction des urnes, de faire savoir qu'il a entendu le message adressé par les électeurs. Mais là, il n'y a pas eu de défaite électorale, pas eu non plus de remaniement, et a priori, aucun changement n'est au programme. On a même entendu le ministre de l'Économie, Bruno Le Maire, déclarer qu'il voyait dans le résultat des élections un encouragement à poursuivre les réformes engagées. Et pourtant, il a été décidé de marquer une rupture au lendemain de ce scrutin. Et la porte-parole du gouvernement, Sibeth Ndiaye, ce midi à l'issue du Conseil des ministres, a évoqué pour ce discours de politique générale le déclenchement d'un acte 2 du quinquennat.
L'objectif sera à la fois d'expliquer ce que sera la mise en œuvre de l'acte 2 par le gouvernement, acte 2 voulu par le président de la République, avec l'explication du changement de méthode, la volonté à la fois de proximité et d'humanité dans le déploiement de nos politiques publiques.
Si on entend bien, cet acte 2 du quinquennat consiste avant tout en un changement de méthode, avec une volonté d'être dans la proximité, plus proche des Français donc, et d'être plus humain. Il s'agit pour Emmanuel Macron et son gouvernement d'essayer de montrer qu'ils ont compris la colère exprimée pendant plusieurs mois par une partie de la population, mais aussi d'acter le fait que le mouvement des Gilets jaunes est aujourd'hui terminé et qu'il n'a pas entraîné de sanctions électorales de la part des Français. L'exécutif va donc poursuivre la politique initiée depuis 2 ans comme prévu, et ce discours de politique générale du 12 juin prochain consistera en grande partie à détailler le calendrier des réformes à venir.
Stéphane Robert du service politique de France Culture. Les mauvaises nouvelles s'enchaînent dans le secteur de l'industrie française. Hier, General Electric a annoncé vouloir supprimer plus de 1000 postes en France. Un peu plus tard, c'est le repreneur de l'usine Whirlpool à Amiens qui a été placé en redressement judiciaire. Bonsoir Rosalie Lafarge.
Bonsoir.
Toutes ces annonces suscitent des remous au sein de l'opposition.
Oui, parce qu'elles sont tombées hier, ces annonces. Hier, 2 jours après les élections européennes, et plusieurs députés ont du mal à croire à une simple coïncidence.
Certains ont attendu que les élections européennes se passent pour annoncer ce plan social, ça semble aujourd'hui très clair.
Yann Boucard est député Les Républicains du territoire de Belfort, où General Electric a prévu de supprimer ses emplois, et il a un peu de mal à l'encaisser, surtout quand il se souvient des mots d'Emmanuel Macron, alors ministre de l'économie.
Il est venu dire des choses très particulières en 2015, il est venu dire « Belfort a un avenir industriel, le gouvernement s'engage, vous pouvez compter sur moi ». Donc clairement, nous ce qu'on lui dit, c'est qu'aujourd'hui, en tant que chef de l'État, on attend qu'il s'engage très fortement sur le dossier. D'abord dans l'accompagnement, mais surtout l'accompagnement pour la diversification, parce que ces gens, il faut qu'ils retrouvent très très rapidement un emploi, ça c'est la première chose. Puis deuxièmement, je pense qu'il faut agir aussi sur General Electric pour qu'il fasse les choses correctement et si possible qu'il revoie à la baisse ce plan social.
À Amiens aussi, on se rappelle les promesses d'Emmanuel Macron quand il était candidat à la présidentielle.
Macron, il est venu sur le site, il a dit « tous les salariés seront repris, il y a un avenir ici, ça va être un super cluster », on avait ce mot-là à l'époque. Bon, là, c'est la débandade.
Et ce qui se passe pour l'ancienne usine de Whirlpool à Amiens, c'était malheureusement prévisible, selon François Ruffin, député insoumis de la Somme.
Ça fait 6 mois qu'on a envoyé un courrier à Emmanuel Macron, à la préfecture de la Somme, à la directe, à peu près tout le monde, pour dire « il y a une usine, il n'y a rien qui sort ». Les salariés, ils me le racontent, ils font un peu de nettoyage, un peu de jardinage, ils jouent aux cartes. Et pendant 6 mois, on a eu 0 réponse. Alors qu'ils ont mis des millions sur la table. Ils ont laissé faire l'entrepreneur, qui est sans doute de bonne foi, mais enfin qui est rentré dans le mur.
Un mur pour Whirlpool, pour General Electric, mais aussi pour Ascoval et Ford. La série des revers industriels s'allonge pour l'exécutif. Dans l'opposition, certains dénoncent même des mensonges d'État, des informations cachées jusqu'aux européennes pour ne pas venir entacher une campagne un peu difficile pour la majorité.
Le ministre de l'Économie, Bruno Le Maire, annonce qu'il se rendra à Belfort la semaine prochaine pour rencontrer les syndicats de General Electric et étudier des pistes pour la réindustrialisation du site. Un ancien ministre convoqué devant un tribunal pour avoir menti lors d'une campagne pour un référendum. C'est en Grande-Bretagne que cela se passe et c'est l'ancien ministre des Affaires étrangères Boris Johnson qui sera entendu par un juge. Il est accusé d'avoir menti sur le coût de l'appartenance du Royaume-Uni à l'Union européenne. Élodie Goulesque.
Le message s'est affiché à travers tout le pays sur un bus rouge. Nous donnons 350 millions à l'Union européenne par semaine, consacrons-les plutôt à notre système de santé. C'est pour cette petite phrase de campagne sur le référendum de 2016 que Boris Johnson va devoir comparaître devant la cour de Westminster pour une audience préliminaire. L'ancien maire de Londres et ministre des Affaires étrangères est accusé d'avoir menti et abusé de la confiance du public. Le cas a été porté devant la justice par Marcus Ball, un Britannique qui se consacre à plein temps à cette cause depuis 2016. Grâce à une cagnotte en ligne, il a récolté plus de 250 000 euros de fonds pour son association Brexit Justice. Ce dernier affirmait il y a 15 jours ne pas vouloir remettre en cause le résultat du référendum, mais seulement faire en sorte que les politiques ne puissent plus mentir sans être sanctionnés. De son côté, Boris Johnson rejette ces accusations et parle de coup politique. Il peut compter sur le soutien de certains de ses alliés, dont le député conservateur et eurosceptique Jacob Rees-Mogg. Selon lui, il s'agit d'une atteinte à la liberté d'expression et parle d'une politisation dangereuse de la justice. Boris Johnson devrait comparaître d'ici 3 à 4 semaines. Si la justice décide de donner suite après l'audience préliminaire, il pourrait y avoir un procès, une première du genre contre un homme politique. Une nouvelle qui tombe plutôt mal pour le député conservateur qui est donné favori dans la course à Downing Street pour succéder à Theresa May.
Élodie Goulesque à Londres pour France Culture. Et en plus de Boris Johnson, au total, ils sont 10 à s'être déclarés volontaires pour remplacer la première ministre Theresa May. Le processus de désignation débutera le 10 juin prochain. C'est la première fois qu'il s'exprime depuis 2 ans. Le procureur spécial Robert Mueller vient de faire une déclaration de quelques minutes au sujet de l'enquête russe aux États-Unis. L'ancien patron du FBI a été très clair. Oui, les Russes ont bien essayé d'influencer la présidentielle américaine. Non, il n'y a pas eu de collusion avec l'équipe de campagne de l'actuel président. Mais Grégory Phillips, il a été bien moins catégorique sur les tentatives d'obstruction à la justice menées par Donald Trump.
Thank you for being here.
Le voici qui parle enfin, Robert Mueller, pour la première fois, après 22 mois d'investigation, une courte déclaration de 9 minutes, durant lesquelles le procureur indépendant reprend les conclusions de son rapport, rendu fin mars. Oui, les Russes ont, à de multiples reprises, tenté d'interférer dans la présidentielle de 2016. Non, il n'y a pas eu de collusion entre Moscou et l'équipe de campagne de Trump. En revanche, sur les tentatives d'obstruction à la justice, Robert Mueller dit ceci. Si nous avions eu des preuves suffisantes que le président n'avait pas commis de crime, nous l'aurions dit. Un président en exercice ne peut pas être inculpé pour un crime fédéral, c'est anticonstitutionnel. Même si les charges retenues contre lui étaient restées confidentielles, c'est interdit. Inculper le président n'était pas une option légale, nous n'avons pas pu l'envisager.
An option we could consider.
Désormais, les démocrates n'ont plus qu'une seule option. S'ils veulent que le président réponde de ses soupçons d'entrave à la justice, passer par le Congrès et entamer une procédure de destitution qui n'a quasiment aucune chance d'aboutir. Donald Trump, lui, réagit immédiatement sur Twitter. Pas assez de preuves. Dans notre pays, une personne est considérée comme innocente dès lors qu'elle n'est pas coupable. L'affaire est close.
Grégory Phillips aux États-Unis. Les Iraniens ne ferment pas la porte à un dialogue avec les Américains. C'est ce qu'a laissé entendre le président Hassan Rouhani, à condition toutefois que l'administration américaine lève les sanctions imposées à la République islamique. Lundi, le président américain a déclaré que l'Iran souhaiterait conclure un accord et que c'était une possibilité. Donald Trump a retiré les États-Unis de l'accord sur le nucléaire iranien. Le premier ministre israélien a jusqu'à ce soir minuit pour former une nouvelle coalition de gouvernement. En cas d'échec, les Israéliens devraient revoter 2 mois à peine après les dernières élections. C'est un petit parti qui bloque avec 5 députés uniquement et qui ne veut pas céder du terrain sur la laïcité. Pour le moment, les discussions semblent dans l'impasse et les Israéliens regardent cette situation politique ubuesque, mi-souriant, mi-blasé. Étienne Monin.
À quelques pas de la résidence du Premier ministre, les affaires courantes continuent, mais tout le monde suit le feuilleton de la coalition. Et quand on demande aux gens s'ils sont prêts à revoter moins de 2 mois après avoir déjà mis un bulletin dans l'urne, ils lèvent les yeux au ciel un peu blasés. On le fera s'il faut le faire. Si on n'a pas réussi la première fois, on va réessayer. Si le Parlement s'autodissout ce soir, ce sera une situation inédite. En théorie, Benjamin Netanyahou avait la possibilité de former une coalition confortable de 65 sièges. En pratique, tout est compliqué dans la vie politique, dit Nehramia, qui espère ne pas devoir voter à nouveau.
C'est ce qui arrive quand une société est divisée. Rien n'est stable. Et c'est la situation dans laquelle on est maintenant. C'est le reflet de la société. La société est divisée.
L'échec de la coalition pourrait sensiblement fragiliser Benjamin Netanyahou. Il ne pourrait plus faire voter le parapluie législatif contre les affaires qui le menacent. Et il risque d'apparaître comme celui qui bloque la vie politique, finalement rattrapé par l'usure du pouvoir. Avraham Diskin est politologue.
Netanyahou a été sous très forte pression pression pendant très longtemps et jusqu'à présent, il a prouvé qu'il pouvait gérer sans véritable problème, mais il y a une limite au pouvoir de chaque personne. Et la question est de savoir si on atteint cette limite aujourd'hui.
La dissolution de la Knesset est soutenue par le Likoud et la droite. L'idée, c'est de tenir le président de l'État à l'écart du jeu politique pour éviter la désignation d'un autre élu mandaté pour former la difficile coalition.
Ce soir, Bakou, la capitale d'Azerbaïdjan, accueille un important rendez-vous sportif, à savoir la finale de la Ligue Europa de football, un match qui oppose pourtant deux clubs anglais, Arsenal et Chelsea. Ce n'est pas la première fois que le pays reçoit de grandes compétitions internationales. Il y a 3 ans, c'était le Grand Prix de Formule 1, l'année d'avant les Jeux européens. Le sport pour faire oublier que ce pays est tout sauf une démocratie montrée du doigt par les associations de défense des droits de l'homme, Nathanaël Charbonnier.
Mort en détention, liberté d'expression interdite pour Amnesty International, corruption et justice aux ordres pour Human Rights Watch, liberté de la presse impossible pour Reporters sans frontières. On peut ajouter aussi intimidation de médias à l'étranger. L'Azerbaïdjan avait assigné en justice le magazine Cash Investigation qui qualifiait de dictature le régime du président Ilham Aliyev, président depuis 2003, qui avait succédé à son père, soit au total plus de 36 ans de pouvoir sans partage. Mais voilà, on peut dire diriger un pays d'une main de fer et avoir envie de reconnaissance internationale. Et puis, comme le dit le ministre des Sports du pays, organiser ce genre d'épreuve, c'est bon pour le tourisme. Visiblement, les instances du foot pensent la même chose puisqu'elles ont donné leur feu vert pour la finale de cette semaine et que l'Azerbaïdjan récidivera l'année prochaine en accueillant plusieurs matchs de l'Euro. Les prisonniers politiques apprécieront. En attendant, ils peuvent se consoler en se rappelant que leur pays a été recalé à 2 reprises aux Jeux Olympiques. L'Azerbaïdjan avait postulé pour ceux de 2016 et 2020 sans succès.
Nathanaël Charbonnier pour France Culture. La journaliste du Monde, Ariane Chemin, a contesté toute faute dans son traitement de l'affaire Benalla. Elle était entendue aujourd'hui par la Direction Générale de la Sécurité Intérieure pour avoir révélé l'identité d'un sous-officier de l'armée de l'air impliqué dans cette affaire. Bonsoir Antoine Marette.
Bonsoir.
Vous nous dites comment s'est passée l'audition ?
Eh bien, d'abord, elle a été courte, environ 3 quarts d'heure. Ariane Chemin était accompagnée de son avocat. Son statut de suspect en audition libre le lui permettait. La DGSI l'a questionnée sur la manière dont elle avait vérifié ses informations. Une façon indirecte, selon elle, de l'interroger sur ses sources. Ce à quoi elle a fait valoir l'article 2 de la loi de 1881. Un article qui dispose que le secret des sources des journalistes est protégé dans l'exercice de leur mission d'information du public. La reporter du Monde conteste toute faute dans cette enquête, tout comme la Société des rédacteurs du Monde qui se dit solidaire de sa consœur Ariane Chemin. Elle a porté à la connaissance des citoyens des informations d'intérêt public, ne faisant ainsi que son travail, ajoutent ses membres. Le SNJ-CGT a de son côté appelé à un rassemblement devant le siège de la DGSI en soutien à tous les journalistes convoqués par l'État français en violation de la loi sur la liberté de la presse et pour la liberté d'informer selon le syndicat. Rappelons que depuis plusieurs mois, ce ne sont pas moins de 8 journalistes qui ont été convoqués par la DGSI, les 7 autres dans le cadre d'une enquête sur l'utilisation d'armes françaises au Yémen.
Antoine Marette, ils veulent en finir avec les tomates bio sous serre chauffée. Des agriculteurs bio viennent de lancer une pétition pour l'interdiction de la culture de certains fruits et légumes bio sous serre chauffée. Une pratique jugée contraire à la réglementation européenne et qui diminue la diversité des cultures. C'est en tout cas ce que dit Jean-Paul Gabillard. Cet agriculteur breton est secrétaire national de la Fédération d'agriculture biologique des régions de France à l'origine de cette pétition.
Les producteurs qui vont passer en tomates serre chauffée, en fait, ils vont faire uniquement des cultures à fort potentiel et à forte valeur ajoutée. Donc, ça peut être tomates, concombres. Mais par exemple, ils vont pas faire de mâches, ils vont pas faire de salade, ils vont pas faire d'oignons blancs ou de choses comme ça. Et du coup, au sein même de l'exploitation, il y aura moins de diversité. Ce qui pose problème, notamment en termes techniques, parce que la bio aussi s'appuie sur ce qu'on appelle la rotation des cultures, donc des successions de cultures. La monoculture est interdite en bio. Donc pour nous, ce chauffage des serres soulève en fait d'autres problématiques. Et c'est surtout que ça donne des produits qui sont hors saison. Il faut savoir que sous serre non chauffée, on arrive à avoir la tomate en Bretagne à peu près du mois de juin au mois de novembre. Donc nous, on estime qu'il y a une diversité suffisamment importante à l'hiver et au printemps, sans avoir besoin forcément de légumes dits d'été, les légumes ratatouille que l'on connaît bien.
Le comité technique de la filière bio se prononcera en juillet sur ce sujet. Le temps pour demain, ce sera très nuageux, voire pluvieux dans un grand quart nord-ouest. Le soleil est de retour dans le sud. Pour les températures, entre 12 et 15 degrés dans la matinée autour de la Méditerranée. Ailleurs, comptez entre 7 et 13 degrés pour le matin. Ce journal a été préparé avec Jean-François Braun.